Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Bertie Bourdon, mais aussi Hélène Lefrançois, Margot Loridon et Rosalie Suc, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Jordan Fuentes. Nouvelle série consacrée à l'Océanie, au fil de l'Océanie, c'est notre série cette semaine. Nous allons nous pencher en particulier sur l'Australie, nouvelle icône de l'Anthropocène. Après cette vague d'incendies dévastateurs, nous nous intéresserons également aux identités multiples de ce continent. Mais ce matin, regardons comment l'Océanie attise les convoitises. Anciens colons, puissance émergente, vers un nouvel ordre régional et mondial, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Bienvenue en Chine, Premier ministre Sogavare. Je suis heureux de vous rencontrer et de faire votre connaissance. Nous adressons également un chaleureux salut à votre délégation. Récemment, le Premier ministre Sogavare et le gouvernement des îles Salomon ont pris la bonne décision de reconnaître le principe de la Chine unique et de couper les liens diplomatiques avec Taïwan.
Solomon Islands is pleased, very pleased.
Les îles Salomon sont ravies, vraiment ravies de reconnaître le principe de la Chine unique. Nous avons pris cette décision il y a 18 jours. Nous sommes ravis d'être l'un des 179 pays à avoir formalisé ses relations diplomatiques avec la République populaire de Chine. Donc mon gouvernement et mon peuple ont choisi d'être du bon côté de l'histoire et de normaliser nos relations avec la République populaire de Chine.
With the People's Republic of China.
Voilà, extrait de cette rencontre entre Xi Jinping et le Premier ministre des îles Salomon, c'était en octobre 2019. Les incendies qui ont ravagé l'Australie ces derniers mois, dont on a beaucoup parlé, ont attiré évidemment l'attention sur cette région océanienne. Mais si le plus souvent c'est par le prisme des enjeux climatiques que l'on regarde cette zone, on en oublie parfois combien elle fait l'objet de convoitises de la part de puissances extérieures. En effet, les pays du Pacifique Sud ont l'habitude de voir s'exercer l'influence de pays comme la Grande-Bretagne, la France ou encore les États-Unis, mais depuis quelques années, un nouvel acteur s'impose, et on l'entendait à l'instant, la Chine. Alors depuis quand Pékin exerce-t-il son influence en Océanie? Comment s'illustre sa présence? Et en quoi bouscule-t-elle les équilibres géopolitiques régionaux? Et puis quelle place aussi pour les autres puissances? Les pays du voisinage proche, l'Indonésie, les Philippines, le Vietnam ou encore le Japon, mais aussi les puissances plus lointaines comme la France évidemment. Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin David Camerou, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheur honoraire au CERI, le Centre d'études international de Sciences Po. À nos côtés également, Sarah Mohamed Gaillard, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous également. Vous êtes maîtresse de conférence en histoire contemporaine à l'INALCO, auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet. D'abord un atlas de l'Océanie auquel vous aviez participé et puis également une histoire de l'Océanie de la fin du XVIIIe siècle à nos jours. C'était chez Armand Collin. Alors peut-être pour commencer, je vais vous faire réagir à ce que vous avez entendu. Septembre dernier, les îles Salomon choisissent de reconnaître la République populaire de Chine alors que jusqu'ici cet État insulaire était allié de Taipei, de Taïwan. Quelques mois plus tôt, c'était le Premier ministre du Vanuatu qui, là aussi, se rendait à Pékin pour officialiser son ralliement à la République populaire de Chine aux dépens de Taïwan. Pourquoi ce retournement stratégique du côté des îles Salomon, David Camerou? Et qu'est-ce que ça nous révèle de cette montée en puissance de la Chine dans cet espace?
Ça coûtait pas très cher, hein. Ça coûtait moins de 15 millions de dollars, qui était l'aide de Taïwan à la fois aux îles Salomon et aux Kiribati. Et donc, la Chine populaire a promis de remplacer cette aide avec le propre aide. Donc, il joue effectivement un rôle de plus en plus important, ce qui force, je crois, heureusement pour les îles du Pacifique Sud, les grandes puissances, ou les moyennes puissances comme l'Australie, les grandes puissances comme les États-Unis, de réagir.
Sarah Mohamed Gaillard, David Camerou présente la chose comme s'il ne s'agissait que d'argent. Est-ce que réellement il s'agit que d'argent? Visiblement, c'est quand même beaucoup ça, hein, notamment dans votre atlas, vous évoquez cette politique, cette guerre du carnet de chèques. Ça fait très longtemps que du côté de Pékin, effectivement, on achète. C'est exactement ça, le ralliement de ces pays de la région océanienne.
Oui, il faut bien comprendre que ces États sont des États insulaires qui sont peu peuplés, qui sont généralement éclatés en plusieurs îles, parfois des dizaines, voire des centaines d'îles qui peuvent être éparpillées sur une très longue distance. Ce sont des États océaniques mais qui manquent de ressources propres et qui ont besoin d'aide au développement, qui ont besoin de fonds pour fonctionner, y compris pour faire fonctionner leurs États. Et donc la souveraineté, ce sont des États indépendants qui ont donc une voix aux Nations Unies, et ils s'intègrent dans un jeu de concurrence entre la Chine et Taïwan, qui a débuté dans le Pacifique dans les années 2000, mais qui maintenant est quasiment conclu, puisque la Taïwan a perdu la majorité de ses soutiens en Océanie. Quasiment tous les États s'étant ralliés à la Chine populaire.
Alors, il y a ces États de prendre beaucoup d'aide au développement, en fait. Je crois qu'ils détiennent le record du monde. Le Tuvalu, c'est l'aide au développement, sauf maintenant qu'ils vendent pour le site internet
.tv.
TV, hein. Donc ils ont trouvé une autre source de ressources, mais à part la pêche, les zones de pêche, ils ont très peu d'autres ressources. Donc effectivement, ils dépendent énormément d'aide au développement. Je crois que l'île Niue, c'est quelque chose comme 90%, 95%. Plus les termes postaux.
Alors, il y a évidemment cette question de l'argent. Il y a aussi, vous le disiez, cette rivalité très forte entre Pékin et Taipei. Mais il y a aussi peut-être d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, Sarah Mohamed Gaillard, parce que en même temps que Pékin mettait en place ce partenariat avec les îles Salomon, il y a un groupe chinois qui obtenait une concession sur une petite île qui s'appelle l'île Tulagi. Et ce contrat est un peu opaque, mais visiblement, absolument rien n'empêche que l'armée de libération nationale y installe une base militaire. Est-ce que c'est ça l'objectif? S'implanter militairement et durablement?
Je serais bien en peine de vous donner une réponse claire. Ce qui est certain, c'est que l'influence croissante de la Chine en Océanie s'inscrit dans une logique beaucoup plus large de la Chine, dans une logique globale d'influence. Donc la Chine souhaite poser des pions. Pour l'instant, ce sont des pions économiques, également ils envoient des travailleurs sur place pour construire des infrastructures. Ça a une importance également pour la main-d'œuvre chinoise. Mais rien ne dit qu'à moyen ou plus long terme, cette présence économique qui est parfois forte, avec une dépendance financière de certains États insulaires à l'égard de la Chine, que cette dette puisse être transformée positionnement militaire pour la Chine.
David Camerou, c'est vrai que traditionnellement, en tout cas quand on regarde un peu l'histoire du XXe siècle, on voit plutôt cette région comme assez largement influencée par les États-Unis, en réalité essentiellement. On a même parfois qualifié cette zone de lac américain. C'est une formule qu'on a déjà entendue. Est-ce que véritablement il faut considérer que désormais Pékin est le nouvel acteur central dans la région, ou est-ce qu'il faut un peu nuancer cette idée?
Je crois qu'il faut nuancer. Il y a clairement une rivalité sino-américaine. Les îles ne souhaitent pas avoir à choisir, comme les pays de l'Asie du Sud-Est, ne souhaitent pas avoir à choisir entre les États-Unis et la Chine, mais c'est clair que c'était jamais tout à fait un lac américain. Les États-Unis étaient peut-être le shérif, mais pour utiliser l'expression de l'ancien premier ministre australien, l'Australie était le shérif adjoint. Et il y avait quand même la présence américaine, c'est plus au nord, je crois, en Micronésie, que dans le en Mélanésie et dans la partie plus au sud.
Sarah Mohamed Gaillard, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que peut-être il faut nuancer et que d'une certaine manière on voit ça nous depuis l'Europe avec peut-être cette peur un peu irrationnelle de voir la Chine s'étendre un peu partout, mais qu'en réalité il faut raison garder?
Alors je crois que cette peur irrationnelle, elle peut aussi avoir cours en Océanie, où l'influence de la Chine fait beaucoup parler, peut être aussi un enjeu de politique intérieure dans certains archipels, dont par exemple la Nouvelle-Calédonie. Mais je pense que David Camerou a tout à fait raison, il faut nuancer. La Chine, pour l'instant, n'est pas encore le premier pourvoyeur d'aide au développement en Océanie. L'Australie reste le leader en la matière, juste devant.
La Chine gagne. Et pour combien de temps encore? Parce qu'on voit aussi que ces j'allais dire les petits États, en tout cas je mets de côté justement les deux géants de la région, c'est-à-dire l'Australie et la Nouvelle-Zélande, quand il y a des nouveaux chefs de gouvernement qui arrivent au pouvoir, chefs d'État ou chefs de gouvernement, désormais, là où on va, c'est plutôt du côté de Pékin, avant même d'aller en visite, visiblement, du côté de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie. Mmh. C'est un peu la tendance des dernières années. Donc, ce qui est en train de se construire, peut-être, c'est en tout cas ce que disent un certain nombre d'observateurs, et je voudrais avoir votre avis là-dessus, ce qui se construit aujourd'hui, c'est une forme d'hégémonie de Pékin pour demain, David Cameron. L'activité diplomatique va dans ce sens, c'est ce que disent certains observateurs.
Je suis d'accord avec ça. Il y a, en fait, la Chine se voit comme une puissance mondiale, en fait, régionale et mondiale. Alors, le Pacifique Sud, c'est une petite partie, presque anecdotique, excuse-moi de le dire, dans cette stratégie plutôt globale. Donc, effectivement, ces investissements dans le Pacifique Sud, encore il faut nuancer parce que entre les promesses d'aide et d'investissement et les réalités, c'est souvent, on a investi à peu près 20% de ce qu'on a promis. Donc, il faut se nuancer. Je crois que aussi, ce qui est peut-être inquiétant dans la politique interne d'un certain nombre de ces îles, c'est qu'on joue aussi, et ça m'inquiète un peu, pas simplement dans le Pacifique Sud, sur la communauté chinoise d'outre-mer. Et on est en train, Xi Jinping fait une erreur, à mon avis, monumentale, parce qu'ils ont l'impression que ces communautés sont un peu une cinquième colonne pour l'influence chinoise.
Ce qui, par ailleurs, provoque aussi un sentiment anti-chinois très fort. Je vous propose d'écouter, avant d'en parler justement, une polémique qui avait été lancée sur les réseaux sociaux à cause de la présence de thoniers chinois dans le port de Papeete et qui avait fait sortir de son habituelle réserve le consul de Chine en Polynésie. C'était en avril dernier.
J'ai noté certains propos sur les réseaux sociaux disant que les navires chinois qui font escale à Papeete se livrent à de la pêche illégale dans les eaux polynésiennes. Mais tous ces navires ont des attestations. La pêche de ces bateaux respecte les conventions internationales. Ces navires sont aussi très surveillés par les autorités françaises et polynésiennes. Ces rumeurs sont sans fondement et mal intentionnées. La Chine les surveille également. Nous avons des lois strictes et les entreprises de pêche surveillent leurs navires 24 heures sur 24. Mais je ne suis pas surpris par ces paroles. Des bateaux scientifiques viennent également ici et parfois on entend dire que ce sont des bateaux d'espionnage. Mais ce sont des personnes mal intentionnées qui inventent cela.
Des personnes mal intentionnées qui inventent tout ça. Sarah Mohamed Gaillard, essayons de comprendre l'état de ce sentiment anti-chinois dans la région, qui est réel, qui est vrai dans les pays, disons les petits états de la région, mais aussi visiblement en Australie où ce sentiment existe aussi.
Oui, alors en réalité, la Chine est quand même l'objet donne lieu à des inquiétudes, un certain nombre de fantasmes aussi sur ses arrière-pensées. Il faut bien dire que c'est assez opaque, hein, donc les observateurs ne peuvent pas toujours avoir de réponse très claire sur les arrière-pensées stratégiques de la Chine. La Chine dit que c'est une puissance économique, qu'elle recherche de l'influence économique, mais évidemment, la dimension stratégique, on peut pas complètement l'oublier. Cette puissance, elle est extrêmement forte, y compris en Australie et en Nouvelle-Zélande, où une partie importante de la population maintenant est d'origine chinoise. La Chine achète des terres arables en Australie, investit dans les universités, dans les médias. Enfin, il y a eu des scandales assez importants ces derniers mois et en Australie notamment. Donc ça crée une sorte d'inquiétude sur les arrière-pensées chinoises qui ressurgissent régulièrement et peuvent donner lieu effectivement à des temps de crispation, voire des manifestations ou des émeutes dans certaines îles du Pacifique à des moments très précis.
Sur justement ces arrière-pensées, David Cameron, parce que c'est vrai qu'il y a deux choses qui sont revendiquées par la Chine quand elle expose sa coopération avec ces pays-là. C'est d'abord une coopération purement pacifique. On n'est absolument pas là pour faire du sécuritaire, pour faire de la défense, pour faire du militaire. Qu'en est-il réellement? Et puis, le deuxième volet, c'est celui qui concerne l'ingérence. Parce que là aussi, Pékin, et c'est valable quels que soient les pays sur lesquels il y a des collaborations qui sont mises en place, on dit toujours Pékin ne fait pas d'ingérence. Mais est-ce que réellement, Pékin ne fait pas d'ingérence? Je pense en partie particulier à une affaire qui avait éclaté du côté de l'Australie avec cet homme d'affaires chinois qui s'appelle Wang Xiangmo, qui avait été soupçonné de financer à la fois des partis politiques mais aussi des organes d'influence de Canberra pour défendre précisément les intérêts de Pékin. Est-ce que vous pouvez nous rappeler peut-être cette histoire pour qu'on y voit plus clair sur les réelles intentions de Pékin? Est-ce que réellement Pékin ne fait pas d'ingérence dans la région?
Mais dans le système politique à la fois en Australie et en Nouvelle-Zélande, effectivement, il y a cette possibilité de financement des groupes, des sino-australiens pour les différents partis politiques. Et de deux côtés, par exemple, dans une des circonscriptions qui est un peu convoitée, il y avait deux candidates, une candidate libérale, donc centre-droite, et une candidate travailliste. Tous les deux étaient d'origine chinoise. Donc, avec la concentration des populations ethniques dans un certain nombre de circonscriptions, avec le mode de scrutin qui est un mode préférentiel, effectivement, ce n'est pas simplement le cas pour les Chinois, c'est le cas pour l'ensemble des différentes communautés des immigrants. Ce sont les communautés qui sont très convoitées par les partis politiques, et donc il y a effectivement des interactions avec les hommes d'affaires issus de ces groupes ethniques, surtout chinois.
Et sur le volet militaire, les réelles intentions de Xi Jinping?
Ce n'est pas très clair. En fait, l'armée populaire de Chine depuis maintenant, c'est, je crois, ça, 2002, a sorti une carte qui était faite par l'Académie des sciences sociales, de Pékin, pour mettre la Chine vraiment au centre. Et son influence va jusqu'en Antarctique. Donc, c'est plutôt une expression
Vous faites référence à la fameuse carte en 9 traits?
Oui, voilà.
D'accord.
La carte en 9 traits, ça concerne le Pacifique Nord. Et là, il y a des vrais différents territoriaux. Il n'y a pas de différents territoriaux dans le Pacifique Sud avec la Chine. Et il y a des problèmes, effectivement, de pêche qui sont graves. Est-ce qu'il y a une pêche illégale? Est-ce que les Chinois respectent les quotas? Et ça, les États insulaires n'ont pas forcément la capacité de surveiller, en fait, ces bateaux de pêche.
Sarah Mohamed Gaillard, sur l'opinion australienne la question étant de savoir si elle est préoccupée ou non par cette montée en puissance de la Chine, parce que c'est vrai que pendant très longtemps, je pense que d'ailleurs c'est peut-être toujours ce qu'on considère aujourd'hui du côté de l'Australie, c'est qu'en réalité cet espace océanien, c'est l'arrière-cour de l'Australie. C'est en tout cas ce qu'on considère du côté de Canberra. Quand on voit la montée en puissance de la Chine, comment est-ce qu'on réagit à tout ça? Et en particulier l'opinion, je veux dire, il y a la classe politique, mais est-ce que les Australiens sont préoccupés par ce sujet-là? Et est-ce que peut-être il nourrit une forme de nationalisme
Alors, ce qui est certain, c'est que l'Australie regarde historiquement les îles avec beaucoup d'inquiétude. C'est-à-dire que ces îles du Pacifique, ce sont les derniers bastions de la défense australienne. Et si elles passent sous une influence ennemie, ce sont potentiellement des points d'attaque contre l'Australie. Donc l'Australie regarde avec beaucoup, fait dépendre plutôt sa stabilité et sa sécurité de la stabilité et la sécurité de son environnement océanien. Mais cet environnement océanien n'est pas non plus une préoccupation majeure de l'opinion publique australienne. On n'en parle pas tant que ça dans les médias. Les aides de l'Australie pour le Pacifique Sud sont surtout regardées sous le coup de ce que ça coûte aux contribuables australiens.
Mais il n'y a pas d'instrumentalisation de la part de la frange des la plus radicale des conservateurs australiens.
Je pense que David Cameron serait plus à même que moi pour répondre sur ce sujet, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a quand même une inquiétude générale et une vraie question en Australie sur est-ce que le Pacifique Sud, l'Océanie, va rester un lac occidental plus qu'américain, parce qu'effectivement, il peut y avoir des différences de positionnement entre l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et la France, mais voilà, ils sont alliés.
David Cameron.
Je crois que dans l'imaginaire australien, il est le front yard, en fait, c'est l'Asie, où on doit se composer avec les puissances, avec les voisins. Et le backyard, c'est le Pacifique Sud. Et c'est ça l'inquiétude. Parce que le backyard, c'est à nous, hein. Et donc, le fait qu'il y ait d'autres puissances qui se trouvent en se composant avec les Américains, surtout avec les Français depuis maintenant une vingtaine de trentaine d'années où la présence française est plutôt appréciée. Mais effectivement, cette influence chinoise qui s'appuie aussi sur une sorte de xénophobie, racisme du 19e siècle, où quand on construit la première chose qu'on a fait en Australie après la fédération de 1901, c'est la loi sur l'immigration, surtout contre l'immigration jaune, en fait, contre l'immigration essentiellement chinoise. Donc, mais l'Australie est surtout dans une contradiction, parce que son premier partenaire commercial, c'est la Chine. La prospérité de l'Australie dépend de la Chine, mais son garant de sécurité, c'est le grand frère américain. Donc, c'est pas le seul pays qui se trouve dans cette situation en Asie-Pacifique, mais ça devient une situation de plus en plus inconfortable dans la mesure où on rentre maintenant dans une rivalité sino-américaine qui n'est pas simplement économique, qui n'est pas simplement militaire, mais qui commence à être, entre guillemets, civilisationnelle. Et ça, c'est inquiétant pour les Australiens.
Et parce qu'en Australie, on apprécie cette présence française, cette coopération française, on achète à Paris des sous-marins.
Nous avons signé un accord de partenariat stratégique avec la ministre de la Défense française. Il concrétise notre engagement de construire 12 nouveaux sous-marins. Et cela aura un impact sur l'emploi dans tout le pays.
Cela demande beaucoup de confiance de la part de l'Australie pour parier sur la France et beaucoup de confiance de la part de la France pour partager avec l'Australie des compétences qui sont au cœur de notre souveraineté et de notre autonomie stratégique. Tout cela est le résultat d'investissements immenses durant des décennies.
Voilà, février dernier, février 2019, à la fois Florence Parly et Scott Morrison, qu'on entendait à l'instant, Paris et Canberra signent cet accord de partenariat stratégique pour la construction de 12 sous-marins commandés à l'industriel français Naval Group, destinés à la marine australienne. Un contrat de plus de 30 milliards d'euros qui court sur un demi-siècle, rien que ça, qui était une première dans l'histoire de l'île continent. Sarah Mohamed Gaillard, comment comprendre ce choix de l'Australie? Pourquoi avoir choisi la France plutôt que les États-Unis, qui sont quand même le partenaire historique?
Alors, il y avait surtout des concurrents japonais et allemands, plus qu'américains. Mais je pense que ça peut tout à fait se comprendre dans la foulée de ce que vient de dire David Cameron. L'Australie se trouve dans ce grand écart entre le partenaire économique chinois et le partenaire stratégique américain. Et il lui faut sans doute trouver d'autres appuis, élargir son vis-à-vis diplomatique, stratégique. Il ne faut pas oublier aussi que la France et l'Australie, à l'échelle globale, partagent un certain nombre de valeurs communes. On sont sur des dossiers communs, par exemple, sur la question syrienne, la question du djihadisme interne, comment on gère ces questions-là. Donc il y a aussi un partenariat sur ces questions de renseignement et de comment gérer la radicalisation en interne.
Mais j'imagine que ça doit aussi exister avec Washington.
Oui, mais il est sans doute important pour l'Australie de diversifier son vis-à-vis diplomatique et de renforcer des accords avec d'autres États que les États-Unis. Après, il ne faut pas surestimer. C'est certes un accord qui court sur 50 ans. Il y a 12 sous-marins, des ingénieurs australiens qui vont venir se former en France, enfin qui sont déjà arrivés. Mais les sous-marins ne vont pas être armés par la France. C'est les États-Unis qui continuent à armer ces sous-marins.
David Cameron, sur cet achat à la France, qui peut paraître un peu étonnant, au regard de l'histoire que partagent ces deux pays, les États-Unis et l'Australie. Puis ensuite, vous nous direz la réaction du côté de Washington. J'imagine que ça a dû grincer un peu des dents.
Oui, c'est pas tellement étonnant. Dans les années 70, l'aviation australienne, c'était des Mirage 3. Donc l'Australie était toujours un pays, dont les vendeurs d'armes disent c'est un client de référence. C'est-à-dire que les choix ont fait sur la qualité des armements et sur le fait qu'ils sont appropriés en fait pour le pays. Donc l'Australie a des destroyers, les frégates qui sont fabriquées en Espagne, les porte-hélicoptères qui sont fabriqués en Espagne et en Australie. Donc c'est pas tellement étonnant ce choix, c'est simplement les Américains ne fournissent pas, en fait, non pas sur les rayons, en fait, les fonds d'armes qui sont appropriés pour une moyenne puissance comme l'Australie.
Sarah Mohamed Gaillard, est-ce que la Chine a aussi une stratégie pour renforcer ses liens avec la zone en intégrant, en soutenant des organisations régionales de cette zone-là, ou est-ce que c'est pas forcément essentiel.
Non, ce qui est certain, c'est que la Chine, elle est liée aux organisations régionales du Pacifique depuis assez longtemps. Ça a été le premier pays extérieur à la zone à signer un accord avec l'Organisation du tourisme du Pacifique Sud. Elle est un acteur, un observateur du Forum du Pacifique Sud, enfin du Forum du Pacifique maintenant. Donc ces liens, ils sont relativement anciens. C'est un acteur, un partenaire relativement naturel.
David Cameron.
Oui, et en fait, cette présence de la Chine en tant qu'observateur a quand même des effets salutaires parce que les dirigeants des pays insulaires trouvent l'attitude du Premier ministre australien Scott Morrison comme vraiment condescendant, surtout sur les questions de l'environnement, parce que la grande question, peut-être on va en parler plus tard, c'est vraiment la question du changement climatique qui a un impact sur ces pays du Pacifique Sud et un sujet sur lequel l'Australie n'a pas de crédibilité actuellement.
Et donc ce sont des arènes dans lesquelles justement on peut défendre cette question-là.
Oui. Tout à fait.
Et peut-être autre chose à noter, David Cameron, c'est que vous le disiez tout à l'heure, Sarah Mohamed Gaillard, Pékin est effectivement associée à ce forum des îles Pacifiques, mais elle peut aussi parfois soutenir des initiatives qui viennent d'acteurs de la région. Je pense à 2009, quand Fidji avait été précisément suspendu de ce forum, où en réponse à cela, Fidji avait voulu mettre en place une nouvelle organisation qui s'appelait le Pacific Island Development Forum. Et à ce moment-là, Pékin avait soutenu l'initiative. C'est-à-dire qu'à la fois, on est partenaire de ce type d'organisation, mais en même temps, on participe de leur affaiblissement, de leur fragilisation, puisqu'on parcellise les choses quand même.
Pas nécessairement. En fait, il faut voir que l'influence de la Chine, elle peut être perçue par les États insulaires comme un élargissement de leur vis-à-vis diplomatique, un vis-à-vis diplomatique qui ne se limite plus aux anciennes puissances historiques et qui ont joué un rôle colonial dans la zone, à savoir l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la France, les États-Unis ou même le Japon. Et donc, avec un vis-à-vis diplomatique qui se diversifie, qui présente aussi des acteurs moins sourcilleux ou moins arrogant sur certaines questions que ne peut apparaître la France ou l'Australie, eh bien ces États insulaires, ils peuvent pousser des dossiers nationaux auprès de la Chine. L'influence que la Chine a pris à Fidji, elle est aussi le fait de la mise au banc de Fidji, du Commonwealth et du Forum du Pacifique à la demande de l'Australie. Alors certes, après un coup d'État et des tensions sur une abolition de la Constitution, mais l'Australie, en voulant écarter Fidji, elle a en fait quand même rapproché
Pékin. C'est dans les bras de Pékin. Erreur politique,
Pékin.
Erreur diplomatique.
Oui, c'est le pays qui a inventé le boomerang. Hein, donc, et effectivement, c'est on voit un Timor oriental, Timor-Leste aussi, c'est cette concurrence où les Chinois investissent beaucoup pour l'infrastructure dans un pays qui a beaucoup besoin d'infrastructure, mais quand même qui a l'avantage d'être un pays qui a des ressources naturelles aussi qui dépendent peut-être moins de cette manne chinoise.
On est avec vous, David Cameron, et vous, Sarah Mohamed Gaillard, dans cette série consacrée cette semaine à l'Océanie, au fil de l'Océanie, aujourd'hui ancien colon, puissance émergente, vers un nouvel ordre régional. C'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Et parmi les organisations régionales de la zone, on a aussi le groupe mélanésien du Fer de Lance, qui regroupe les îles Salomon, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Vanuatu, les îles Fidji et le Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste. Et en juin 2015, il se trouve que ce groupe a pris la décision d'intégrer l'Indonésie en tant que membre associé.
Indonesia and PNG are close neighbors.
L'Indonésie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée sont des voisins proches. Nous partageons des frontières. Nous partageons une communauté, la communauté mélanésienne. L'Indonésie est le foyer de plus de 11 millions de Mélanésiens. Ils sont une part de nos relations bilatérales. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir une relation faible entre nos deux pays.
We could not afford to have weak relation between our two countries.
Voilà, on entendait à l'instant Joko Widodo, donc le président indonésien. Cette décision d'intégrer l'Indonésie, en tout cas de lui donner ce statut de membre associé, avait provoqué à l'époque la controverse. On va essayer de comprendre pourquoi et voir comment l'Indonésie, qui est aussi un acteur important dans la région, tente de défendre ses intérêts par le truchement notamment d'organisations régionales. On va retrouver Christian Lechervy, qui est l'ancien secrétaire permanent pour le Pacifique de 2014 à 2018. Vous aviez participé à cet ouvrage collectif « L'Océanie convoitée, histoire, géopolitique et société ». Il faut rappeler, Christian Lechervy, que l'Indonésie a un pied au cœur de cet ensemble, puisqu'elle exerce sa souveraineté sur la partie occidentale de l'île de Nouvelle-Guinée, la partie orientale, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ayant obtenu son indépendance vis-à-vis de l'Australie en 1975. Donc il n'était pas illogique, évidemment, que cette Indonésie intègre l'ensemble. Alors pourquoi, Christian Lechervy, cet octroi du statut de membre associé avait posé problème?
Plusieurs pays malaisiens soutiennent la cause de l'indépendance de la partie occidentale de l'île de Papouasie et le porte aux Nations Unies depuis de nombreuses années. Donc la question de la souveraineté pleine et entière au travers d'un référendum d'autodétermination sur le modèle de celui qui s'est tenu en Nouvelle-Calédonie, sur le modèle de celui qui vient de se tenir sur l'île de Bougainville, est préconisée par un pays comme le Vanuatu, et celui-ci le porte aux Nations Unies. Donc il y a la volonté de voir la Papouasie suivre cette voie.
Mais il y a une question qui se pose, Christian Lechervy, c'est que en même temps que l'Indonésie a été acceptée en tant que membre associé, le fameux groupe mélanésien du Fer de Lance a rejeté la candidature du Mouvement de Libération Unie pour la Papouasie Occidentale, qui souhaite justement cette indépendance de la Nouvelle-Guinée Occidentale vis-à-vis de l'Indonésie. Et quand on regarde les choses un peu historiquement, quand ce groupe a été formé en 1988, il y avait précisément ce désir de se rassembler pour peser pour l'indépendance notamment de la Nouvelle-Calédonie, d'où la présence d'ailleurs du Front de Libération Nationale Kanak dans le groupe. Alors comment se fait-il que 30 ans plus tard, on ne soit plus aussi enclin précisément à soutenir ces mouvements indépendantistes?
Bon, d'abord, Fidji a pris un poids tout à fait considérable. C'est devenu un partenaire des pays d'Asie en général et de l'Asie du Sud-Est en particulier. L'actuel chef du gouvernement fidjien a développé l'idée d'une Look North Policy qui permet de développer des programmes d'aide au développement, permet de nourrir plus de relations aériennes, plus de connivence aussi dans les enceintes multilatérales. Et aujourd'hui, Fidji, très clairement, a une vision différente de celle peut-être historique du groupe de Fer de Lance et en premier lieu du Vanuatu.
Oui, donc c'est une évolution peut-être en particulier de Fidji. Christian Lechervy, si on revient à Jakarta, à l'Indonésie, quel est l'intérêt pour l'Indonésie de renforcer ses liens avec ses pays mélanésiens? Quel objectif poursuit Jakarta?
Il cherche d'abord à circonvenir les soutiens dont pourrait bénéficier le mouvement de libération pour la Papouasie occidentale. Les Indonésiens ont évidemment en tête la manière dont le Fretilin à Timor occidental a pu avoir pendant longtemps un soutien sur la scène internationale. Il cherche aussi, comme la plupart des puissances émergentes, à dialoguer avec tout le monde. Et donc, au même moment que l'Indonésie développe des relations avec les États océaniens, l'Indonésie développe des relations avec l'Afrique, avec le Moyen-Orient. Au fond, c'est la poursuite de la politique telle qu'elle a été conduite au début des années 50. Il faut bien voir aujourd'hui que les puissances moyennes parlent à tout le monde et tiennent beaucoup à cette dynamique.
Oui, donc il y a la dimension intérieure, c'est-à-dire marginaliser ce mouvement indépendantiste papou pour éviter que cette Papouasie occidentale avance sur le chemin de l'indépendance, et puis le volet plus extérieur, c'est-à-dire tout simplement chercher l'appui de ces États insulaires pour avoir une place plus importante sur la scène internationale, et notamment, j'imagine, dans l'arène onusienne. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un dernier volet plus économique, celui-ci, qui viserait à faire basculer, en tout cas à faire tendre un petit peu ces pays d'Océanie vers l'Ouest pour en renforçant les échanges commerciaux? Est-ce que c'est aussi une dimension importante pour Jakarta ou c'est marginal?
Disons que c'est une dimension qui fait apparaître l'Indonésie comme un pont entre les États océaniens et l'Asie du Nord-Est en développement. Ça insiste sur la centralité des pays d'Asie du Sud-Est, de l'ASEAN à proprement parler, le leadership indonésien sur l'association des États d'Asie du Sud-Est. Évidemment, l'économie indonésienne croît plus vite que les économies insulaires. On est à un taux de croissance autour de 8% tendanciellement en Indonésie, c'est-à-dire entre 2 et 3% de plus que la moyenne des toutes petites économies insulaires. Je pense que c'est plutôt la fonction de pont qui est importante, que la fonction, je dirais, strictement mercantile des relations entre la somme des petits États insulaires et l'Indonésie. L'Indonésie, d'ailleurs, prend une grande attention à nouer des relations, pas seulement avec le monde mélanésien. Ils ont ouvert une ambassade au Marshall, ils ont développé des relations avec les États du nord du Pacifique, Palau, établi des relations diplomatiques ces dernières années avec le Kiribati et Tuvalu. Et de la même manière, il y a des efforts pour établir des relations plus régulières avec les pays polynésiens. Et au fond, l'association de l'Indonésie au Forum des îles du Pacifique comme partenaire leur permet d'entretenir des relations avec chacun des États ou territoires du Pacifique insulaire.
Si on poursuit un petit peu pour voir les différentes formes de cette coopération entre l'Indonésie et ce groupe mélanésien, Christian Lechervy, vous avez parlé d'aide au développement, vous avez évoqué bien sûr ces relations diplomatiques. Il y a peut-être un volet qu'on connaît moins, Christian Lechervy, que j'ai découvert en lisant l'article qui est dans le livre auquel vous avez participé, l'Océanie convoitée, qui est la question militaire. Parce que là, visiblement, sur le plan militaire, Jakarta a aussi des ambitions de coopération avec ces pays. Lesquels exactement ?
Jakarta est un peu le centre de formation aux opérations de maintien de la paix. Parmi les États insulaires, vous avez les Fidji qui participent à de nombreuses opérations des Nations Unies. Ils sont installés depuis de nombreuses années sur le plateau du Golan, hein, sous casque bleu. Ils ont déployé des casques bleus également dans le Sinaï. Ils en ont déployé au Sud-Soudan. Il y a peu de pays du Pacifique qui disposent d'une armée à proprement parler. C'est le cas du Royaume des Tonga, c'est le roi de Fidji. Ailleurs, il peut y avoir des forces de police, comme Vanuatu. Pour les autres États, il faut bien convenir qu'ils ne disposent pas de forces. Donc c'est essentiellement une coopération avec Fidji que cette coopération de nature militaire.
Et c'est d'ailleurs les îles Fidji qui avaient suggéré de mettre en place une unité mélanésienne de maintien de la paix. Dans ce cadre-là, l'Indonésie a proposé aussi ses services. Si on regarde, Christian Lechervy, maintenant, comment réagissent les autres pays de la zone, le Vietnam, la Thaïlande, Singapour, comment est-ce qu'ils voient justement ces velléités, ces ambitions de l'Indonésie face à ces organisations régionales mélanésiennes ?
Bon, chaque pays d'Asie du Sud-Est développe son propre relationnel avec l'Est, avec le Pacifique insulaire. Les Philippines le font plutôt avec les États micronésiens, à commencer par Palau, qui est le territoire le plus proche d'eux. Les Thaïlandais le font essentiellement pour des raisons économiques et garantir l'accès aux zones de pêche. N'oublions pas que la Thaïlande est le premier producteur mondial de thon. Donc il a besoin d'accéder à la matière première. Et chacun des États insulaires du Pacifique, même s'ils sont des petits territoires, ce sont d'immenses territoires maritimes. Et donc l'accès à la ressource halieutique est un enjeu premier. C'est la même chose pour le Vietnam. La militarisation de la mer de Chine méridionale a entraîné le déport vers l'Est d'un certain nombre de pêcheurs vietnamiens. Les blue boats vietnamiens opèrent aujourd'hui jusque dans les eaux calédoniennes, ce qui a créé quelques tensions ces dernières années. Ils pêchent aussi dans le large des Salomon, au nord de l'Australie. Et donc ces raisons de pêche sont un enjeu très important, à la fois pour les pays d'Asie du Sud-Est et puis pour les pays océaniens, parce que c'est une ressource absolument indispensable pour les budgets des États.
Mais alors, est-ce que précisément les enjeux liés à cet accès aux ressources halieutiques poussent ces pays que j'évoquais, Vietnam, Thaïlande, Singapour, à essayer d'intégrer précisément les organisations régionales mélanésiennes ?
Alors pour certains, ils l'ont fait, hein. C'est le cas de l'Indonésie et de la Malaisie, de la Thaïlande, auprès du Forum des îles du Pacifique. Ils sont des partenaires de dialogue, ils participent chaque année, à la fin août, début septembre, à la réunion annuelle des chefs d'État et de gouvernement. Le dernier qui s'est déroulé en 2019 s'est déroulé à Tuvalu. Il y a aussi des dialogues structurés entre l'ASEAN comme collectivité avec le Forum des îles du Pacifique. Il y a un certain nombre de territoires du Pacifique qui participent au partenariat économique PECC, dont le secrétariat est à Singapour. Il y a donc plutôt, je dirais, des contacts, des échanges entre les technostructures, des organisations sous-régionales. Et c'est ainsi, au fond, qu'est en train de se construire tout un espace indo-pacifique où les organisations micro-régionales se lient progressivement les unes aux autres.
Même si, Christian Lechervy, précisément, ce forum des îles du Pacifique, qui est peut-être l'ensemble régional le plus important, qui avait été créé en 1971, eh bien, l'Indonésie, dont on parle, n'est pas membre de cet ensemble-là. Il n'est même pas associé, il n'est même pas observateur, il est seulement partenaire du dialogue post-forum. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais on imagine que c'est plus distancé que le statut de membre, d'associé ou même d'observateur.
Oui, c'est une manière de tenir à distance l'Indonésie de la région. C'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas complètement l'Indonésie dans son statut mélanésien. En dépit du fait que l'Indonésie souligne, nous sommes le plus grand pays mélanésien, nous sommes celui qui est le plus peuplé de la région, nous rassemblons sur 5 de nos provinces la moitié de la population mélanésienne. Le fait de ne pas être membre associé fait que les États ne considèrent pas l'Indonésie comme l'un des leurs. C'est un partenaire extérieur, un partenaire de dialogue au même titre que Cuba, la Turquie, la France, le Canada, voire les États-Unis, la Chine ou le Japon.
Merci beaucoup Christian Lechervy, l'ancien secrétaire permanent donc pour le Pacifique de 2014 à 2018. Et je rappelle que vous aviez participé à cet ouvrage collectif « L'Océanie convoitée, histoire, géopolitique et société » qui était paru aux éditions du CNRS. David Camerou, réaction, je vous ai vu écouter avec beaucoup d'attention et noter quelque chose sur votre papier.
Oui, en fait, l'Indonésie, c'est là, en parallèle avec la Chine, c'est un pays qui se projette, qui se définissent comme un pays d'Indo-Pacifique. Et eux, les Indonésiens, avec Joko Widodo ou Jokowi, ils ont cette vision que eux, ils sont la charnière, en fait, c'est la pivot entre le Pacifique et l'océan Indien. Et donc, ils revendiquent toutes ces différentes identités océaniennes, les liens avec l'Afrique, les liens avec l'Inde, pour justement, dans une vision de Mandela, avec les cercles concentriques, dans lesquels on trouve le Pacifique Sud, mais c'est aussi pour une question de politique interne par rapport justement aux problèmes de demande d'indépendance dans les Rohingya, etc.
Vous parlez d'indépendance, effectivement, pour comprendre évidemment les équilibres actuels, il faut regarder comment se sont déroulées ces indépendances, oui. Il faut revenir sur cette période de la décolonisation, ce qu'on va faire tout de suite.
Quelle est la position du gouvernement français?
La position du gouvernement français est extrêmement claire. Le ministre département et territoire d'outre-mer, M. Stirn, a récemment déclaré que la France était prête, avec la Grande-Bretagne, à favoriser l'accession des nouvelles hybrides à un régime d'autonomie interne qui les conduira, le moment venu, à l'indépendance totale.
Monsieur le Président, quelle attitude politique de la Grande-Bretagne vis-à-vis des nouvelles hybrides?
Well, as my colleague has just pointed out to you.
Eh bien, comme mon homologue français vient de vous le faire remarquer, les nouvelles hybrides et leur système politique sont en quelque sorte un anachronisme dans le monde moderne. Et nos gouvernements, ensemble, sont déterminés à amener les nouvelles hybrides à un point où il leur apparaît comme nécessaire de devenir indépendants.
Voilà, c'est une belle archive de 1977 sur les nouvelles hébrides, nommées comme ça par l'explorateur James Cook au XVIIIe siècle, et ce continuum franco-britannique de l'océan Pacifique, devenu indépendant en 1980, sous le nom Vanuatu, qu'on connaît bien, lui, pour le coup. Il y avait une dispute sur ce territoire entre Français et Britanniques, et donc on avait mis en place cette administration conjointe, c'était en 1904. Quand on regarde un peu ce mouvement de décolonisation, Sarah Mohamed Gaillard, D'abord, on note quelque chose, c'est qu'il est arrivé dans les années 70, c'est-à-dire un peu plus tard que du côté de l'Afrique. Quand on regarde un peu les nouveaux États indépendants, Fidji 70, Tonga 70, Tuvalu 78, les îles Salomon 78, Kiribati 79, Vanuatu 80. Pourquoi ce décalage, pourquoi cette décolonisation dans ce territoire-là se fait de façon plus tardive, en tout cas quand on compare à l'Afrique ?
Alors, ce sont des archipels qui ont été colonisés relativement tardivement, au cours du 19e siècle, début du 20e siècle. Et effectivement, ils sont dans la dernière vague, dans une des dernières vagues de décolonisation. Et certains archipels d'Océanie restent encore sous administration étrangère, que ce soit l'île de Pâques avec le Chili, la France qui est présente dans trois territoires, une souveraineté également de la Nouvelle-Zélande sur certaines îles. Donc il y a effectivement un décalage, mais c'est vraiment au cours des années 50 que la Grande-Bretagne souhaite se désengager de ses colonies situées à l'est du canal de Suez et qui va impulser un mouvement d'abord d'accès à l'autonomie et qui va amener des élites locales à prendre en main petit à petit les affaires de ces archipels et qui pousse en fait ces archipels à accéder à l'indépendance. Dans le même moment, la France...
Donc c'est moins subi que organisé en réalité.
Alors une partie de ces indépendances ont été organisées par la Grande-Bretagne et parfois un peu à marche forcée, rapide, en une dizaine d'années. Et parallèlement, la France, elle fait le choix inverse, c'est-à-dire que la France, parce qu'elle installe le centre d'expérimentation du Pacifique en Polynésie française, parce qu'elle a des intérêts historiques et démographiques forts en Nouvelle-Calédonie, cherche à se maintenir. Et donc, ça se joue notamment ces tensions, cette différence de point de vue se voit très bien dans le cas du condominium franco-britannique des Nouvelles-Hébrides, parce que la Grande-Bretagne cherche à s'en débarrasser dès les années 50, alors qu'au même moment, la France essaye au contraire d'affirmer son influence en développant les écoles, en développant la radio, etc. Parce qu'il y a dans l'idée de la France que si les Nouvelles-Hébrides, qui sont vraiment voisines, proches de la Nouvelle-Calédonie, si les Nouvelles-Hébrides deviennent indépendantes, ça sera difficile de retenir la Nouvelle-Calédonie. Et si la Nouvelle-Calédonie, pilier démographique de la France dans le Pacifique, devient indépendante, ce sera très compliqué de tenir la Polynésie française. Polynésie française qui, depuis, entre 63 et 96, est un lieu d'expérimentation atomique. Donc, il y a vraiment, de la part des puissances métropolitaines, un jeu différent. L'Australie aussi va temporiser avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Elle va tarder à amener la Papouasie-Nouvelle-Guinée à l'indépendance, alors que la Nouvelle-Zélande fait un choix inverse. 6975, alors que la Nouvelle-Zélande fait un choix inverse. Elle est en difficulté au Samoa depuis bien longtemps et Samoa devient le premier État insulaire à recouvrer sa souveraineté en 1962. Voilà, donc il y a aussi des logiques propres à chaque État colonial qui peut différer.
Et une partie de Samoa qui reste toujours américain, qui est territoire américain.
On imagine, David Camerou, que cette différence de posture va laisser une empreinte tout à fait différente. Organiser l'indépendance de ces pays ou alors l'éviter, le ralentir, j'imagine qu'aujourd'hui, dans les représentations collectives, ça a laissé une trace bien différente, non ?
Oui, en fait.
Est-ce que ça n'a pas bénéficié aux Britanniques d'une certaine manière ?
Oui et non. En fait, les Britanniques avaient une autre attitude envers ce qu'on appelle le confetti d'empire. Et je crois qu'avec le bénéfice, avec l'histoire, peut-être la vision française était plus rationnelle et plus, disons, au moins en termes de puissance, de convertir, c'est pas simplement pour le Pacifique Sud, mais Guyane, ou on peut parler de les Caraïbes, Réunion, comme un attribut de cette puissance moyenne qui est la France, une grande puissance qui est la France. Donc, effectivement, ça... dans le Pacifique Sud, ça laisse le fait qu'il n'y avait pas de guerre d'indépendance. Hein. L'indépendance était accordée plutôt que donnée plutôt que revendiquée, a fait en sorte qu'après, pour les colonies britanniques, dans le Commonwealth, ils ont pu trouver une autre, entre guillemets, maison et garder les liens plutôt... cordiaux avec la Grande-Bretagne, mais ça n'a pas eu le même impact sur les mentalités en fait de ces pays.
Mais justement, si on prend le cas de l'Australie, qui, vous avez raison de le rappeler, fait partie du Commonwealth, c'est même le pôle principal essentiel dans cette région-là. Qu'est-ce qui reste de cette influence de l'ancien colon? Parce que pendant longtemps, même après l'indépendance, la Grande-Bretagne a gardé une influence assez forte sur le pays, y compris sur le plan politique, puisque en tout cas, en théorie, très longtemps, il y a une loi qui permettait à Westminster de modifier la constitution australienne. Alors, il se trouve qu'elle n'existe plus, en tout cas, elle a été supprimée en 1986, mais donc pendant très longtemps, il y avait encore un lien très fort. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cette influence de l'ancien colon en Australie?
Mais il reste le lien avec la monarchie. Il y a un mouvement républicain en Australie qui est assez fort. Mais en même temps, il y a en fait cette appréciation de la reine Elizabeth. Et on oublie souvent qu'il y a 1 million de Britanniques en Australie. Hein. Si on compte, on parle d'autres immigrants, mais si quand même la majorité de la population est d'origine anglo-saxon ou britannique à un moment ou à un autre. Donc ça compte un peu dans l'imaginaire du pays, ouais. Bien que une fois que la Grande-Bretagne est rentrée dans l'Union européenne, ça a un peu distancié les choses. Maintenant, avec le Brexit, ça sera intéressant de voir ce qui va être les nouvelles relations avec la Grande-Bretagne.
La première diaspora, je me trompe pas, c'est la diaspora chinoise, hein, non?
Oui, les Chinois sont en train de prendre, pareil en Nouvelle-Zélande, hein, une importance considérable, et la prochaine génération le montrera a priori de façon manifeste.
Voilà, c'est avec cette très belle musique du collectif des îles Salomon, Kao Makonga, qu'on se quitte. Un grand merci à nos deux invités, Sarah Mohamed Gaillard, je rappelle vous concernant l'Atlas de l'Océanie auquel vous avez participé, paru aux éditions Autrement, mais aussi l'histoire de l'Océanie de la fin du XVIIe siècle à nos jours chez Armand Collin. Merci infiniment également à vous, David Camereau. On poursuivra nos pérégrinations dans cet espace océanien demain, mais pour l'heure, on retrouve Brice Couturier, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors le Green New Deal est le grand projet de l'Union européenne pour la décennie qui s'ouvre. Comment le définir?
À la suite des élections européennes de l'an dernier, le groupe des Verts au Parlement européen dispose de 74 sièges sur 751, soit vous me direz 10% de l'effectif global, mais on peut estimer à 62% le nombre des eurodéputés qui ont été élus sur un programme comportant des promesses en matière d'écologie. Et 56% d'entre eux estiment que l'Union européenne devrait organiser une transition rapide vers une économie faiblement émettrice de gaz à effet de serre. La Commission européenne a entendu cet appel et sa présidente, Ursula von der Leyen, a proposé un Green Deal ou pacte vert d'un montant colossal, 1 000 milliards d'euros sur la décennie 2020, soit 100 milliards par an. L'idée de la présidente de la Commission est de transformer la Banque européenne d'investissement en une véritable banque du climat, à charge pour celle-ci d'orienter ces sommes faramineuses vers les projets susceptibles d'aider l'Union européenne à atteindre le but qu'elle s'est fixé, ramener à zéro d'ici à 2050 ou même avant les émissions européennes de gaz à effet de serre. Ce noble objectif pose des problèmes qui risquent fort d'en démontrer le caractère irréaliste selon de nombreux observateurs. Ainsi, Jean Pisani-Ferry doute de l'efficacité de la vertu européenne si celle-ci devait demeurer isolée dans un monde qui, globalement, continue à polluer un peu plus chaque année. Certes, l'UE va probablement introduire une taxe carbone à ses frontières, mais cela suffira-t-il à ne pas trop défavoriser nos propres producteurs dans un monde hyper compétitif, un monde où certains États, comme les États-Unis, la Chine ou l'Inde, sont loin de faire les efforts nécessaires à la préservation du climat de la planète ? En outre, fait observer Pisani Ferry, je le cite, si l'UE décide des permis d'émission pour les industries intensives en énergie et des normes pour les émissions de gaz des voitures, elle n'est pas directement décisionnaire en ce qui concerne le mix énergétique de chaque pays, car celui-ci demeure à la discrétion des États membres, comme d'ailleurs les incitations fiscales ou les normes concernant l'isolation thermique.
Et alors, Brice, d'où un risque élevé de clivage politique entre l'Ouest et l'Est de l'Union européenne ?
Eh oui, parce que le mix énergétique de certains pays d'Europe centrale repose encore massivement sur le charbon. Ainsi, en Pologne, les centrales thermiques au charbon représentent près de 80% de la production d'électricité du pays. Pas étonnant que le ministre polonais de l'énergie ait récemment traité de « fantaisiste » l'idée que son propre pays puisse parvenir à la neutralité carbone en 2050. Mais plus largement, beaucoup d'observateurs redoutent qu'à l'intérieur même des vertueux États membres de l'Ouest européen, le renchérissement incitatif des énergies polluantes ne provoque des révoltes telles que celles des Gilets jaunes en France. Les Gilets jaunes ne sont pas un phénomène isolé, remarque ainsi le directeur de l'European Council on Foreign Relations, Marc Leonard, qui recommande, je cite, « les leaders européens doivent moins écouter les moralistes tels que la militante Greta Thunberg et davantage les réalistes pragmatiques ». Si la participation de l'Europe au sauvetage de la planète devait s'avérer un facteur de réduction des niveaux de vie pour les classes moyennes et populaires, il existe un fort risque de contestation et de rébellion. Et c'est pourquoi un objectif aussi ambitieux que le Green Deal européen ne sera réaliste que s'il demeure compatible avec la croissance de l'UE, s'il la soutient au lieu de la bloquer. Or, c'est possible. Une note sur le Green Deal, publiée par la Fondation Jean Jaurès, en prend acte. Ses auteurs recommandent une articulation publique-privée qui dépasse la simple taxation incitative du carbone. Le marché ne suffira pas à réorienter les investissements vers des énergies et des activités non polluantes, écrivent ses auteurs. Les sommes mises sur la table par la Commission européenne doivent donc servir à financer des solutions innovantes, intégrant notamment les découvertes encore à venir pour certaines de l'intelligence artificielle. Enfin, un certain nombre d'économistes allemands, comme Hans-Werner Sinn, s'inquiètent du financement par l'emprunt d'une grande partie de ce Green Deal. L'UE va faire exactement ce qu'ont fait les grandes banques à la veille de la crise de 2008, prévient Sinn, à savoir contourner la réglementation en transférant une partie de leurs activités vers des systèmes hors bilan et des entités ad hoc. En effet, la future banque du climat sera autorisée à emprunter massivement sur les marchés pour financer ce Green Deal et de son côté, la BCE sera incitée à acheter ces espèces de bons du Trésor européen afin d'en faire baisser les taux d'intérêt. Ainsi, écrit Sinn, la BCE, après s'être transformée en une autorité publique de sauvetage des banques et des gouvernements proches de la faillite, se mue à présent, et sans aucun mandat pour le faire, en une sorte de gouvernement économique qui peut imprimer de l'argent à sa guise.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table.